Or, ce matin, le message d'un thème imposé, j'ai toujours un peu de difficulté avec ça, mais bon, c'est les cinq qui de l'Épître aux Romains. C'était les quatre primitivement, puis c'est passé à cinq. Et je vais demander à Élise de venir lire le texte. Alors, vous lui pardonnerez, elle est un peu émotionnée, émue. Comment on fait pour faire marcher ça? Voilà.
Misérable que je suis, qui me délivra de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Alors c'est Paul qui écrit aux Romains. Aux croyants romains. Et il écrit ça vers les années 57-58. Il ne connaît pas l'église de Rome. Et il écrit toute cette lettre pour bien préciser la doctrine chrétienne. Si vous avez des lacunes là-dedans, relisez l'épître aux Romains. C'est tout dedans. Il s'adresse à des chrétiens authentiques. Et dans le texte qu'on a lu, il affirme que ceux-là, ces chrétiens, Dieu les a connus d'avance. Avant leur existence, il les a prédestinés, c'est-à-dire il les a destinés à l'avance à être à l'image de son Fils. À l'image. Ça vous rappelle quelque chose, être à l'image? Tout au début de la Genèse, hein, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et les chrétiens, nous sommes une nouvelle création destinée à être à l'image de Christ. Et pour cela, il nous a appelés, il nous a justifiés aussi. Pour être à l'image de Christ, on doit impérativement être revêtu de sa justice. Et c'est ce qu'il a fait pour nous, mais il ne s'est pas arrêté là. Il nous revêt aussi de sa gloire. Cette gloire dans laquelle il est entré quand il est ressuscité. Dans l'évangile de Luc, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Alors, vous allez me dire que pour que je sois à l'image de Christ, il y a encore du boulot à faire. Il y a encore du travail. Mais Dieu n'est pas limité dans le temps. Il n'est pas bloqué à l'instant présent, un peu comme nous. Et lui, il me voit, il se voit à la fin, lorsque tout sera accompli. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Et c'est parce que lui, il considère le résultat final qu'il me voit juste et sans tache. Quand il me regarde,
Quand il te regarde, c'est Christ qu'il voit. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors, dans cet épître, l'apôtre pose très souvent des questions. Si vous la relisez, vous verrez, il y a des questions tout le long. Et ces questions, il donne des réponses ou il n'en donne pas, parce que souvent les réponses sont évidentes pour le lecteur. Alors la première question qu'il pose et qu'on va voir, c'est au chapitre 7. Ça marche, oui. Qui me délivrera de ce corps de mort? Et cette question vient après un long chapitre où il affirme le pouvoir du péché sur nos corps et notre incapacité à l'éradiquer. La loi du péché est inscrite dans nos corps, comme la loi de la gravité, et on a vraiment du mal à y échapper. Notre volonté n'est pas suffisante pour la vaincre. Je ne fais pas le bien que je veux. Pour moi, il est évident, et je pense pour chacun, que nous péchons. C'est évident? Oui? Oui, c'est évident. Sinon, pourquoi Jean aurait écrit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. » Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Cela veut dire que pour le croyant, le péché, c'est plus la loi dominante, ni la force dominante. Mais que cette force dominante, c'est la vie de Christ ressuscité. Vie qui est caractérisée par le Saint-Esprit. Alors on constate que le croyant n'est certes pas libéré entièrement du péché, mais il l'est de sa puissance. Et cette libération, c'est le résultat de la simple foi en l'œuvre rédemptrice parfaite de notre Seigneur. Sur la croix, il n'a pas simplement porté le châtiment de nos péchés, mais aussi le jugement de Dieu sur ce péché qui habite en nous. Et par son sang, on est purifié de ses péchés. Par sa mort, notre vieille nature n'existe plus aux yeux de Dieu. Par sa résurrection, on a une position nouvelle. On peut marcher dans une vie nouvelle. Et c'est la réponse que donne Paul à sa question. Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu, je suis libéré par Jésus-Christ, mon Seigneur. Alors dans le chapitre suivant, que nous avons lu, dans le chapitre 8, l'apôtre pose quatre autres questions. En fait, ce n'est pas des vraies questions parce que elles introduisent seulement des évidences qu'il énonce par la suite. La première question, si Dieu est pour nous, qui donc sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alors la question doit être prise peut-être pas tout à fait au premier degré. Lorsque nous devenons chrétiens, est-ce que l'opposition cesse? Je pense pas, au contraire. Paul, lui, il aurait pu faire une longue liste des personnes qui s'étaient dressées contre lui. Il y avait des membres de sa propre famille, des juifs jaloux, des commerçants qu'il dérangeait, des dirigeants romains malveillants. Et lorsque nous devenons chrétiens, que nous voulons vivre engagés dans la foi, Satan est furieux. Il fait tout pour que nous fassions marche arrière. Il utilise des proches, des connaissances, nos patrons, nos compagnons de classe ou de travail, tout ça pour remettre en question notre décision. La question de Paul donc, porte donc plus sur le fait de pouvoir triompher de nous que de celui d'être contre nous. En d'autres termes, il aurait pu dire « Qui pourra être victorieux de nous si Dieu est pour nous ?» Il semble en effet clair que si celui qui a tout créé, qui est éternel et souverain, est pour nous, qui donc peut s'opposer à lui? Mais Dieu est-il vraiment pour nous? Dieu, celui qui nous a choisis, qui pour cela nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, qui a sacrifié pour nous celui qui faisait tout son délice, qui nous a adoptés pour être ses fils et ses filles, il ne serait pas pour nous? Dans ma tête, ça ne serait pas très cohérent. Ma vie, ta vie, est cachée en Christ, le Fils bien-aimé de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, disait Paul. Et même avant que Christ vienne sur cette terre et s'offre en sacrifice dans l'ancienne alliance, Dieu était pour ceux qu'il avait choisis. Et pourtant, ils n'étaient pas toujours tout nets. Jacob avait cette conscience. Dans Genèse 31, il dit « Si je n'avais eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. » Il dit de son oncle Laban. David aussi avait cette certitude et cette assurance. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Et puis Dieu affirmait à Ésaïe, son prophète, ne crains rien. Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alors à plus forte raison, maintenant que Christ nous donne sa vie et son esprit, Dieu est de notre côté. Notre force n'a pas d'importance. C'est la force de Dieu qui nous donne la victoire. L'apôtre Jean dit dans sa première épître, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Quand nous sommes accablés par les problèmes de cette vie, souvent nous doutons de l'amour de Dieu. L'amour que Dieu nous porte n'est pourtant pas lié aux circonstances, ne se mesure pas à notre réussite, il se mesure uniquement à la croix de Christ. Arrêtons de nous concentrer sur nos difficultés, sur l'opposition qu'on peut subir. Fixons nos yeux sur la croix. Je ne sais pas vous, mais moi souvent je me dis, comment Dieu peut-il m'aimer ainsi? Je ne suis pas digne. Pas digne d'un tel amour, d'une telle bienveillance. Il voit ma vie, il voit ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense. Il me connaît de long en large, extérieurement comme intérieurement. Il sait combien de fois je chute et que je ne vis pas toujours comme lui le voudrait. Comment Dieu peut-il m'aimer encore? Et Paul va répondre un peu à cette question dans les versets suivants. C'est sa deuxième question. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. La Bible nous dit qu'on a un accusateur, un grand accusateur. Vous savez de qui il s'agit. L'Apocalypse nous parle de celui qui nous accuse devant Dieu jour et nuit. Vous vous souvenez de l'histoire de Job, qui est venu se présenter devant Dieu tout au début de l'histoire pour mettre en doute la fidélité de Job. Satan. Satan aime aller voir Dieu pour lui dire des choses comme « Tu as vu Christian ? Tu as vu ce qu'il a fait aujourd'hui ? T'as entendu ce qu'il a dit ? Ce qu'il a pensé ?» Et avec ça, il ose encore s'appeler chrétien. Et vous savez ce que Dieu lui répond ? Lucifer, je suis désolé, je ne le vois pas. Dieu, il est là, tu ne le vois pas ? Non, Lucifer, je ne vois pas Christian. Quand je fixe mes yeux sur lui, ce que je vois, c'est mon fils, Jésus. Je mettrai la loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Or, pour ma part, j'ai toujours été très surpris d'apprendre comme ça que Satan, l'ange déchu, l'ennemi, avait toujours accès auprès de Dieu dans le ciel, devant sa face. Alors, j'ai du mal à comprendre. Bon, on ne va pas essayer d'expliquer ça ce matin. Dans une vision, on voit aussi Satan qui accuse Zacharie. C'est dans Zacharie 3. Pas qui accuse Zacharie, qui accuse le souverain sacrificateur. La vision, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite, pour l'accuser. L'Éternel dit que l'Éternel te réprime ou que l'Éternel te fasse taire, Satan. Lui qui a choisi Jérusalem. Or Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit « Josué, tu vois, je t'enlève ton iniquité. Je te revais d'habits de fête. » Alors, dans cette vision, il est intéressant que l'Éternel ne veut même pas entendre les accusations. Il dit à Satan, « Tais-toi. » Et puis, c'est l'ange de l'Éternel qui justifie Josué. L'ange de l'Éternel, c'est le Christ. C'est notre Sauveur. Et Josué, c'est le souverain sacrificateur, c'est lui qui représente le peuple. Et c'est Christ qui ôte son iniquité. Et je trouve que c'est une bien belle vision de l'œuvre de Christ, qui a été livrée pour nos offenses, ressuscitée pour notre justification. Satan peut encore essayer de nous accuser, mais ça prendra fin. L'accès au trône de Dieu, le juste juge lui sera interdit. L'Apocalypse 12 dit « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. » On n'a plus à craindre l'accusateur. On peut s'approprier les paroles d'Ésaïe, « Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi ? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire ? Qu'il s'avance donc avec moi. » Mais une accusation, ça implique quelque part un tribunal, un procès, un jugement. Et la troisième question de l'apôtre concerne une éventuelle condamnation. Qui les condamnera ? Christ est mort bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui condamne? C'est le juge. L'Ancien Testament nous présente Dieu, l'Éternel, comme le juste juge, le juge suprême. Et je citerai qu'un verset parmi une multitude. Il juge le monde avec droiture, il juge les peuples avec justice. Nous voyons aussi Dieu dans ce rôle de juge à la fin du livre de Job. Dieu a compassion de lui et il dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. On a déjà parlé de rançon, non, tout à l'heure. Et Job chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Quelle prémonition merveilleuse de Job! C'est Dieu le juge qui fournit lui-même notre rançon. Matthieu 20, 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour beaucoup. Or le juge, il semble quand même que Dieu ait délégué ce rôle à son Fils. Jean 5, 22, le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement au Fils. Et Acte 10, 42, c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Jésus, celui que Dieu a établi, juge, et aussi notre représentant, notre souverain sacrificateur. Alors, j'essaye de m'imaginer et de comprendre. Christ est le juge. Il est aussi mon représentant. Plus que ça, il est mon avocat. C'est Jean qui l'affirme, hein. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Alors, si je me représente le jugement comme un tribunal, je vois Satan debout, il a un long parchemin qui dresse toute la liste de mes péchés et de mes manquements. Et c'est grand. Et puis Jésus, il vient vers moi, il pose la main sur mon épaule et il dit, c'est mon frère, je suis mort pour lui. J'ai payé tout ça. Ses péchés ont été lavés dans mon sang. Il s'en va, il reprend sa place sur son trône de juge, et il déclare, il a été justifié, il est déclaré non coupable. Le rôle de l'avocat, c'est de me défendre. Il ne peut pas me condamner. En résumé, mon juge, c'est aussi mon avocat. Qu'est-ce qu'on dirait chez nous? C'est un déni de justice, ça? Je ne comprends pas. C'est comme ça. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et puis vient la dernière question de l'apôtre dans ce passage. Et la question est d'importance. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et Paul donne une liste des problèmes connus des chrétiens de son époque. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? D'abord, il parle de tribulation. Alors, j'ai cherché un peu, le terme grec signifie pression. C'était le procédé utilisé, c'est toujours le procédé utilisé pour presser le raisin. On l'écrase. Et c'est bien l'image de la tribulation, non? Puis quand il parle d'angoisse, le grec dit c'est un lieu étroit. C'est la sensation d'être serré comme dans un étau, là, sans pouvoir respirer. Et c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de soi quand on est angoissé, non? Puis Paul mentionne encore plusieurs choses. Mais est-ce que tout ce que Paul décrit est suffisant pour nous séparer de l'amour de Dieu? Dieu dit dans Jérémie, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dieu m'aime. Pour moi, ça reste un mystère. C'est lui qui l'a décidé. Et puis-je comprendre Dieu? Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, selon le bon plaisir de sa volonté. L'amour de Dieu nous est acquis. Concrètement, ça signifie que si je suis malade, au fond de mon lit, Dieu m'aime toujours. Si je pleure un être bien-aimé qu'on a mis en terre, Dieu m'aime toujours. Si je suis abattu parce que mes responsabilités financières sont devenues trop lourdes, Dieu m'aime toujours. Si je suis perdu parce que ma famille se déchire, Dieu m'aime toujours. Puis si mon cœur me tiraille parce que j'ai péché et que je crois que Dieu ne pourra jamais me pardonner, Dieu m'aime toujours. Dieu ne pourra jamais m'aimer moins qu'il ne m'aime déjà. Il ne pourra jamais m'aimer plus. Il a donné son Fils pour le montrer. Et Paul termine dans les deux derniers versets du chapitre en nous disant que personne n'est assez fort pour changer cet amour que Dieu a pour nous. Ni les anges, ni les dominations ou les démons, ni aucune créature, ni aucune circonstance. Tout lui est soumis. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles dans la croix. Et si le doute t'assaille, Dieu te dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, si c'était possible? Moi, je ne t'oublierai pas. Alors je vous laisse juste les assurances qui nous sont données dans ce texte. C'est Christ qui me délivre du péché et de la mort. Dieu est pour nous. Nous ne sommes plus en accusation, plus condamnés. Et enfin, Dieu m'aime d'un amour infini et éternel. Amen.